Club des Chineurs.
Salut, c'est Geoff Clinton pour le Club des Chineurs sur Radio Pays d'Héro et RPH Sud. J'espère que vous allez bien, malgré ce temps pourri. On est au lendemain du Salon du Vinyle et de la Musique d'Agde que j'ai co-organisé. Et nous avons eu le plaisir, mes amis et moi, d'inviter un disquaire qui est désormais installé à Pézenas, rue Canabasserie. Et ce disquaire s'appelle...
Vinyl Shakers.
La boutique s'appelle
Et le disquaire s'appelle Gérald Guignot.
Et mon invité est Gérald Guignot aujourd'hui. Alors je t'ai invité parce que on s'est croisé dans une bourse au vinyle à la Salvetta. On a tout de suite bien accroché, surtout quand tu nous as raconté ta vie de disquaire dans les années 80 chez New Rose. Alors on va revenir au fil de l'émission sur tout ce que tu as fait, mais bon, t'as travaillé chez Sarava, t'as eu des labels, tu as toujours des labels, tu as travaillé à Paris dans un lieu culturel, l'Espace Chiron, tu as travaillé...
J'ai aussi dirigé un label qui s'appelait Commotion Musique, okay. D'ailleurs qui faisait partie de l'Espace Chiron. Voilà, et bon, après j'ai organisé
des bourses au vinyle du côté de la Normandie,
à Paris Normandie. Aussi. J'ai aussi fait un festival en Normandie, à Trouville-sur-Mer, qui à un moment s'appelait Le Sable, les Mouettes et les Guitares Électriques, et après L'Âme de Son. Donc, qui était une saison musicale qui durait entre 5 et 6 mois, avec un ou deux événements par mois, qui étaient aussi bien des expositions, des rencontres avec des artistes, des projections. Et puis, j'ai fini les deux dernières années sur la plage, en 2018 avec Catherine Ringer, en 2019 avec Sinclair et Yarol Poupeau. Donc devant plus de 10 000 personnes sur la plage. Et ensuite j'ai arrêté, le Covid est arrivé, j'ai arrêté. Voilà.
T'as fait plein de choses, donc t'as tenu la mythique boutique de disques New Rose à Paris, qui était également un label et un distributeur.
Oui, New Rose est à la base effectivement c'est une boutique qui est devenue très rapidement un label.
Créé en quelle année?
La boutique a été créée fin 81. Et moi, je suis arrivé en janvier 82, au retour de mon deuxième voyage, tour des États-Unis en stop. Voilà, j'ai été embauché chez New Rose parce que j'étais client précédemment de la boutique Music Box où les deux fondateurs de New Rose travaillaient. Et on s'était rencontrés, on avait bien accroché. Quand ils ont ouvert New Rose et que je suis revenu acheter des disques chez New Rose, et ils m'ont dit, écoute, tu vas venir travailler avec nous.
Alors ça, c'était en 82. T'avais t'étais très jeune, non, 82?
Alors, j'étais déjà plus très jeune.
Ah ouais, non?
Non, 82.
T'avais 25 ans.
J'avais 26 ans, 25 et quelques.
Donc
voilà.
T'avais déjà une certaine culture musicale.
Oui.
Et qu'est-ce qui t'a donné la passion de la musique? T'as eu des parents musiciens?
Alors pas du tout, non. Pas du tout. La passion de la musique, en fait, la passion de la musique, j'ai baigné dedans d'une certaine manière parce que ma mère avait un bistrot à Arras, parce que je suis né à Arras, dans le Pas-de-Calais, où j'ai habité jusqu'à l'âge d'environ 12 ans, et elle avait un bistrot avec un jukebox.
Ah.
Et dans le jukebox, il y avait tout. Il y a absolument tout. C'est-à-dire, il y avait Claude François chez là, Jean Ferrat, les Beatles, voilà, il y avait tout.
Qui s'occupait d'approvisionner le jukebox en 45 tours?
Alors, à cette époque-là, les jukebox étaient approvisionnés par des commerciaux qui venaient amener les disques dans les bistrots.
Ok, voilà. Moi j'ai 50 ans, j'ai connu les jukebox, mais alors j'ignore totalement comment ça fonctionnait commercialement.
Là, c'était les années 60, effectivement. C'était pas les maisons de disques ou quoi que ce soit. Il y avait des représentants qui amenaient dans les bistrots, il y avait des jukebox. C'était les concessionnaires, en quelque sorte, qui devaient avoir des partenariats avec les maisons de disques et qui amenaient, qui rechargeaient les jukebox.
Alors, tu parlais des Beatles, mais est-ce qu'il y avait Soft Machine dans les...
Non, il n'y avait pas Soft Machine.
Comment as-tu découvert Soft Machine? Puisque ce sera le premier disque. Enfin, C'est un musicien de Soft Machine que tu as choisi comme premier extrait musical pour illustrer ta carrière, entre guillemets. On peut parler de carrière quand même. Dans la musique.
Oui, un parcours.
Dans le monde de la musique. Ouais, ton parcours dans le monde de la musique.
Voilà, un parcours, lié à ma passion. J'ai eu cette chance, finalement, à partir d'un certain moment, de pouvoir, en plus, travailler, de ma passion dans le monde de la musique. Avant, quand j'étais adolescent.
À partir de 82,
quand j'étais adolescent, j'étais un fan. J'ai commencé à travailler jeune et très rapidement, j'ai acheté des disques. Mais avant même de travailler, j'ai acheté des disques, effectivement. J'ai acheté des disques à partir de 1970, en fait.
Ok.
J'ai toujours mon premier disque, d'ailleurs, acheté.
Ok, ouais, tu avais à peu près une douzaine d'années, c'est ça?
En 70, j'avais 14 ans.
Ok.
Quand même.
Ouais. Ouais, ouais, t'étais pas si jeune, hein.
Pas si jeune, tu vois.
Mais bon, ça devait être beaucoup plus difficile d'acheter des disques à l'époque qu'à mon époque.
Bah, moi, mon premier disque, je l'ai acheté, j'habitais dans l'Essonne, à Montgeron. Je l'ai acheté dans un magasin d'électroménager.
Et Soft Machine, alors comment tu l'as découvert? Et après, on va écouter un morceau de Kevin Ayers.
Alors, Soft Machine, j'ai découvert.
Qui a une histoire par rapport à toi.
Ah, bah oui, en plus. J'ai acheté le premier Soft Machine, qui était d'ailleurs le premier album. Je l'ai acheté, au tout début des années 70 aussi. J'habitais donc à Paris. Enfin, dans l'Essonne, plutôt à Montgeron. Je suis allé à Paris avec ma mère. Et on est allé boulevard Saint-Michel et j'ai écouté déjà des disques et tout. Elle m'a dit tu veux aller quelque part pour aller acheter un disque, et on a fait le boulevard Saint-Michel et je suis tombé sur la librairie Tarantula, boulevard Saint-Michel, qui n'existe plus depuis des lustres, et qui était librairie et qui vendait des disques, et j'ai acheté donc ça devait être, je pense que c'est un peu après, 71, 72, j'ai acheté mon premier album de Soft Machine, qui était aussi le premier album du groupe.
Avec une pochette,
mais qui était déjà sorti depuis un certain temps. Hein.
La pochette psychédélique, non?
Le premier album de Soft Machine, il y a une pochette très particulière. La pochette est verte et il y a une roue qui tourne sur le côté de la pochette. Tu vois?
Je l'ai jamais vu. Ouais. Je crois pas l'avoir vu.
Il faudra que tu viennes chez moi, je te le montrerai un jour.
Il me semble que j'ai... Peut-être je l'ai, mais avec une réédition en réédition américaine. Ouais. Bref, que va-t-on écouter pour commencer?
Alors, nous allons écouter Kevin Ayers.
Et pourquoi?
Alors, Kevin Ayers, c'est d'abord parce que j'ai toujours adoré le personnage, et tous les albums.
Qui était-il?
Kevin, quel style?
Non, qui est-il?
C'était l'un des...
Il est toujours vivant, oui.
Il est mort, quasiment.
Ah, il est mort?
Il est mort,
okay.
Ouais. Il habitait dans le sud de la France, d'ailleurs. Non, c'est un groupe qu'on pourrait appeler de progressif anglais, un peu dadaïste, mm-hmm. Pour moi, un groupe dada. Kevin Ayers, lui, qui est un dandy, c'est vraiment un dandy magnifique pour moi. Et donc, cet album est progressif, dadaïste, un peu barré, très beaucoup d'humour. Et cet album s'appelle Whatever She Brings, voilà. Et Kevin Ayers, j'adore le personnage, j'adore ce côté dandy. Et c'est le nom de mon label, Mea Records, vient du titre d'une chanson de Kevin Ayers, parce que quand je cherchais un nom pour mon label, Je tapais des noms, je regardais, puis ils étaient tous pris, déjà déposés. Puis à un seul coup, j'ai commencé à avoir cette chanson « May I » qui est dans ma tête de Kevin Ayers. C'est « May I », c'est « Puis-je ». Il y a comme chercher « Puis-je » trouver le titre. Et puis voilà, je me suis dit « Bah voilà, ça va s'appeler May I Records ».
Et là, on écoute quoi ?« Whatever She Brings, We Sing ». Ok, on en reparle après.
Thank you. and down the hall, but it's full of best wishes and suffocating fishes and all. So let's drink some wine and have a good time. But if you really want to come through, let the good time. To do, you said it was foolish for me to be sad, but I'm very hungry, and you're very well fed. You're such a fat lady, and I'm talking just for something to do, 'cause I'd much rather kiss you, but I know I'm gonna miss you again and again. I know I'm gonna miss you. So let's drink some wine and have a
C'est Geoff Clinton dans le club des Chineurs. Je suis avec le nouveau disquaire de Pesnas, Monsieur Guignot, Gérald Guignot, qui vient d'ouvrir donc une boutique rue Canabasserie qui s'appelle Vinyl Shakers. On écoutait quoi à l'instant, Gérald?
On écoutait un groupe de krautrock, un groupe de rock allemand.
Que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître.
Ne peuvent pas connaître, voilà. Qui s'appelle Amandul, Amandul 2, Amandul 2. Et on écoutait Wolf City, le titre éponyme de l'album.
Et on en parlait hors antenne, ça a été une des influences pour toi. Enfin, tu as eu plein d'influences dans ta jeunesse. Donc tu es né en 56 et,
ouais.
Et tu as écouté évidemment les Beatles et les Stones, mais aussi le krautrock naissant à la fin des années 60, le rock psyché, mods, etc.
Et en fait, à partir
de tout ce qu'il y a eu dans les années 60.
Comme je t'expliquais, effectivement, il y a plein de groupes de rock que j'entendais dans le jukebox de rock anglais. Après, j'ai écouté la radio aussi. Et puis, quand j'ai commencé à acheter des disques, en fait, mon univers musical s'est encore élargi parce que ce que j'ai acheté, j'étais curieux, je lisais un peu la presse, j'achetais tel groupe et d'un seul coup, ça me renvoyait sur tel autre groupe, sur tel musicien. Et puis, le krautrock, c'est venu avec Amandul en premier, ensuite avec Can. Tout début des années 70 aussi, j'ai acheté le premier album de Can dans un magasin à Paris qui s'appelait Radio Pygmalion, tu vois, j'ai acheté avec By Mazie ou Crashotten, je sais plus comment on prononce ça. Je suis tombé aussi dans le krautrock vraiment, et j'ai vu deux fois Wolf City à Amandul en concert dans les années 70 par exemple. C'était c'est pareil, c'est une musique qui m'a tout de suite touché.
Comment tu as découvert les Doors qu'on va écouter par la suite?
Ah, les Doors, j'ai découvert ça.
Qui touche toutes les générations. Hein.
Bah oui, oui. Et puis bon, c'est comme là, c'est un de mes disques d'île déserte en quelque sorte.
On va passer après les deux disques récemment chinés.
Ouais. Les Doors, j'ai découvert au moment de la sortie de LA Woman. J'ai découvert par l'intermédiaire d'un ami un peu plus âgé qui avait dans la maison de ses parents une pièce assez particulière avec des stroboscopes et tout, et puis on allait écouter de la musique de temps en temps dans cette pièce-là, et puis il avait c'était assez enfumé, et je dois dire que il venait d'avoir l'album Hello Woman venait de sortir des Doors, donc il l'a mis, et là ça a été un clash énorme. Voilà, vraiment, j'ai...
Malheureusement,
c'était le dernier.
Ça coïncide avec le départ de Jim à Paris, sur les traces de Baudelaire, sur les traces de ses héros littéraires.
Ouais.
Et puis, il n'en est jamais revenu. Eh bien, on va tout de suite s'écouter Love Madly des Doors. Merci, Gérald.
Yeah, don't you love her? dances all night long, playing cards and a rock and roll. The road's much too long, seems like I'm wasting my time. Wish I was home again, sipping my wine, and I'm gone, gone, gone. I don't care, 'cause I'm gone, gone, gone. I don't care, this is where I'm from. I'm on the road again. Who's wearing next coat? His eyes are moving, but there's no life showing. And I'm gone, gone, gone. I don't care, 'cause I'm gone, gone, gone. I don't care, it's where I'm from. I'm on the road again.
Quel beau morceau, on est toujours en direct sur Radio Pays des Roues et RPH Sud avec Gérald Guignot, le nouveau disquaire de Pézenas. Et on fait un petit coucou à Claude d'ailleurs qui s'installe très bientôt à Béziers.
Oui, Claude, que j'adore, qui était à côté de moi hier à Agde.
J'ai pas fait exprès.
On s'est marré.
Ah, il est super Claude. Ouais. Un petit coucou si jamais tu nous écoutes ou si tu nous réécoutes. Donc, on a écouté les Doors et Traffic. Là, on est parti dans les années 70.
Oui, on était toujours sur les années 70, que j'ai vécu musicalement pleinement et puis aussi avec quelques concerts. Et puis, très rapidement, on est arrivé sur le pub rock, le punk rock, où j'ai pareil, j'ai tout de suite j'ai adhéré. En même temps, bon, c'est normal, j'étais client d'une boutique qui s'appelait l'Open Market à Paris, rue des Lombards, qui était la boutique de Marc Zermati, qui avait son label Skydog, et voilà, qui était un pourvoyeur de rock américain, notamment comme les Flaming Groovies, même comme Iggy and the Stooges, mais qui est aussi un pourvoyeur de pub rock anglais et de punk, parce que quand même, il a sorti le premier 45 tours des Damned, qui s'appelle Neurose en plus, voilà.
Ok, et il est sur le premier album aussi? Les 45 tours dont tu parles?
Oui, Neuro, c'est sur le premier album des Damned. Ouais.
Ah, j'adore le morceau. Ah, ouais.
Sensible, qui était Captain Sensible, qui a fait ses albums solo, et les Damned retournent là de nouveau, mais sans Brian James, le guitariste d'origine depuis longtemps, mais qui vient en plus de décéder.
Et transition parfaite pour dire que donc après avoir être tombé amoureux du son de Canterbury, du British blues et puis du rock psyché et puis du kraut rock et puis du pub rock, du punk rock, après le post-punk est arrivé et puis toi on t'a mis dans une tu as été nommé été recruté dans une boutique de disques.
Oui, le punk rock, je l'ai vécu à fond. Premier album des Ramones, je l'ai acheté. En 76, je suis parti faire le premier tour des États-Unis en stop, mais en arrivant à New York, j'étais voir les Ramones au Max Kansas City trois fois de suite. Plus d'autres
tu vas faire rêver des auditeurs et des auditrices.
Voilà, et puis ensuite,
quand ceux qui aiment le punk.
Quand je suis revenu, il y avait le post-punk aussi. Enfin, il y avait le punk, le post-punk, premier Cure. J'ai vu le premier concert de Cure à Paris, tu vois, par exemple. Encore mon ticket.
T'es pas allé au CBGB's?
Si, je suis allé au CBGB. J'ai vu.
Est-ce que ça sentait la piste comme dit Patti Smith dans ses dans ses mémoires?
Je suis pas allé derrière, donc tu vois, ça sentait la bière surtout. Ça sentait la bière.
J'imagine.
Et la sueur.
Elle dit que c'était crade, qui faisaient leur affaire dans les chiottes.
C'est punk.
Ah ouais,
voilà.
On imagine New York en 76, ouais.
Et après, donc en 81, je repars faire mon deuxième tour des États-Unis en stop, et c'est là quand je rentre chez Neurose, qu'on me fait cette proposition de m'occuper de la boutique Neurose pendant que Louis et Patrick, les deux patrons, montaient le label, développaient le label et la distribution.
On y reviendra et on va poursuivre l'émission, alors sans vraiment de transition, mais donc je t'ai demandé d'amener une douzaine de disques et puis des disques de récemment chinés, des disques coup de cœur, des disques de chevet. Là, on va passer à des sorties récentes,
ouais.
Parce que en bon disquaire, forcément, tu continues à t'intéresser à ce qui sort, quoi.
Ah, j'écoute toujours beaucoup de choses, ouais.
Et c'est pas quelqu'un de très jeune, Bobby Gillespie, mais... continue à faire de la bonne musique là. Mais sa dernière collab avec les Liminianas, elle est super. Hein.
Ouais. Moi, j'ai toujours une faiblesse pour Primal Scream.
Ah, ben,
dès le premier album. D'ailleurs, quand j'étais chez Neurose, un titre comme Gentle Tuesday, les albums de Bobby Gillespie de Primal Scream, au départ, c'est
Rocks
quand même.
Rocks aussi, c'est très, très
bon.
C'est après.
Alors, en fait, il y a tous les premiers disques qui sont plutôt, pop un peu psyché. Après Rocks, c'est très
ah,
Rolling
oui.
Stone.
Oui, oui, à fond.
Très Rolling Stone, avec des influences aussi de Johnny Thunder. Puis après, bon, il y a tout le côté, électro, très dur.
Andrew Weatherall, la production.
Du Stuka, c'est quand même des morceaux comme ça. Ouais. J'ai toujours beaucoup aimé ce mec. Je trouve qu'il a eu un talent fou. Il y a un autre type, un Américain, je trouve qu'il a un talent fou dont j'ai pas aimé le disque, mais que j'aurais pu. C'est Greg Dulli, chanteur des Afghan Whigs, qui a fait plein de projets aussi à côté, en parallèle, notamment les Twilight Singers. D'ailleurs, j'ai amené 12 disques. C'était pour moi, c'était comme de faire Harakiri, d'amener 12 disques. Tu vois.
Oui.
Mais bon, voilà. D'ailleurs, je reviens dans une heure, je t'en amène 12 autres. Hein, voilà. Mais c'était ce type me plaît beaucoup. Ouais.
Si vous aimez la musique que passe Gérald, vous aimerez les disques qu'il y a dans ses bacs rue Canabasserie à Pézenas, Vinyl Shakers. On écoute donc un morceau de Bobby Gillespie et Jenny Bett. C'est Chase It Down, c'est ça?
C'est ça.
Sorti en 2021 sur Sony Music.
crazy blood, Jesus star, no matter who or what you are, and we don't have too long, run your race, sing your song.
Attack, oh no!
Hop, j'étais parti changer le disque. On est toujours en direct sur Radio Pays d'Auro et à Perche Sud avec Geoff Clinton et mon invité. Ce mois-ci, c'est Gérald Guignot, donc, qui vient d'ouvrir une boutique de disques à Pézenas, qui a travaillé chez New Rose quand même dans les années 80. T'es dans le domaine de la musique depuis 1982 et puis t'es très branché rock, hein. On peut dire la boutique elle est très branchée rock, mais
oui, plutôt branchée rock, mais bon,
il y a de tout, hein. Il y a de la musique africaine,
il y a même
des maxis pour les DJ comme moi.
De
house, de
disco.
Mais
spécialement pour toi, hein.
Ouais, non, alors les DJ n'y allaient pas, laissez-les-moi. Non, je plaisante.
Non, mais bien sûr, il y a du jazz aussi. Tu sais, le jazz, hein, j'ai pas beaucoup de reggae, alors que j'aime le reggae aussi, mais j'en ai pas beaucoup parce qu'on en trouve difficilement. Mais le jazz, j'en ai pas mal et j'aime ça aussi. J'ai découvert le jazz plutôt fin des années 70.
Et là, on vient d'écouter quoi, au fait? Parce que tout à l'heure, on était parti sur Bobby Gillespie, duo avec Jenny Bett.
Oui, c'est ça. Et là, on vient d'écouter Madonna.
OK.
Madonna, qui est l'un des
Américains.
Oui, américain, qui est l'un des groupes grunge phares de la scène américaine des années 80, qui est apparu à peu près en même temps que Nirvana, Soundgarden, ou même Smashing Pumpkins. Pour moi, c'est un très très bon groupe, Madonna, avec des influences quand même très stoogiennes. Et j'aime beaucoup ce groupe. Et là, c'est un album que je n'avais pas, que je viens de découvrir. J'adore ce disque.
L'arrivée de Nirvana avec Bleach en 89, ça t'a interpellé?
Avant Nirvana, chez Neurose, j'avais déjà eu Fugazi. Tous ces groupes, Minor Threat. Et puis, qui étaient déjà, quelque part, le punk américain.
Mais Cobain s'en est inspiré, sauf que lui, il avait des influences aussi Beatles.
Oui.
Et c'était un songwriter.
Bien sûr, voilà. Ou alors des influences Bowie aussi.
Aussi,
hein, parce qu'il a repris,
oui. Bonne transition, mon cher Gérald. Puisqu'on va passer aux deux disques rares. Et là, t'as ramené, c'est un coffret, c'est quoi?
C'est un coffret, ouais, c'est un coffret live.
Je te laisse décrire ce qu'on va écouter.
Décrire
le disque, parce que c'est une émission autour du vinyle, donc c'est un beau coffret de vinyle.
De vinyle, oui. C'est un coffret au départ de live de David Bowie avec Nine Inch Nails. C'est à l'époque où ils ont fait une tournée ensemble, où Nine Inch Nails faisait la première partie de Bowie et où l'un ou l'autre allait avec l'un ou l'autre groupe. Et là, il y a une version...
Tu les as vus?
Non, je les ai pas vus. Ah. J'ai vu Bowie, hein, mais j'ai pas vu.
Oui, je me doute. Enfin, juste de...
Oh, ben,
je les ai tous vus, visiblement.
J'ai vu Bowie au milieu des années 70, en fait. À l'époque, Station to Station.
Ah ouais, très
bon concert. Mais là, c'est assez particulier parce que c'est une reprise de Hurt. Ce magnifique morceau de Nine Inch Nails qui a été repris aussi par Johnny Cash.
Exact.
Chanté par David Bowie. Produit par Rick Rubin.
Oui.
Voilà. Et là, c'est absolument, la version est magnifique. C'est encore autre chose. C'est encore une dimension.
Enregistré live, donc. Oui. C'est ça, en 95.
Ouais.
Allez, c'est parti, Axel. Merci. À la régie.
The needle tears a hole. your familiar sting. Try to kill it away. But I remember
I'm
Les Stooges sur Radio Pays des Rois, RPH Sud, le club des chineurs, aujourd'hui avec Gérald Guignot. Et Gérald, donc tu me disais là en antenne que tu as écrit sur Iggy Pop qu'on vient d'entendre avec les Stooges.
Oui, en fait j'ai fait un livre pour les éditions Albin Michel et la collection Rock and Folk sur Iggy.
T'as fait plein de trucs hein, quand même dans ta...
Ouais,
ouais, dire ouais. T'as fait quand même carrière dans la musique, hein.
Bah c'est ça. C'est un vrai parcours musical et puis c'est une fidélité à moi-même, je crois aussi, très important pour moi.
Et en fait, on peut le trouver ce bouquin.
Ça fait longtemps. Je sais pas si on peut le trouver sur en occasion, ouais. Ouais, notamment sur le Bon Coin. Mais en fait, j'ai fait ce bouquin. J'avais envie de faire un livre sur Iggy, sur les Stooges. Je voulais aller contacter un petit éditeur pour ça. Et puis j'ai été voir quelqu'un que je connaissais bien parce que j'avais besoin des coordonnées téléphoniques d'Yves Adrien. Qui était écrivain, notamment qui avait été vendeur. Et j'étais voir Philippe Manœuvre chez Rock and Folk pour lui demander les coordonnées de Adrien. Je connaissais bien Philippe depuis les années 70. Et quand je lui ai dit que je voulais écrire un bouquin sur Iggy et les Stooges, il m'a dit tu vas le faire pour nous. Il m'a fait confiance. C'est quand même très beau de sa part parce que je n'avais jamais écrit. Il a dit tu vas le faire pour nous et tu vas écrire pour Rock and Folk. C'est comme ça que je commence à écrire pour Rock and Folk et à faire aussi la page Érudit Rock. Pour Rock and Folk pendant un certain temps.
C'est là que tu as rencontré Stan?
C'est à cette époque-là que j'ai rencontré.
Que j'ai invité dans cette émission.
Ouais,
c'est
à cette époque-là qu'on s'est
rencontrés.
Ouais, tout à fait. C'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés. Et ensuite, j'ai fait un documentaire pour Arte. J'ai eu à l'époque où je travaillais chez Sarava, parce que je me suis occupé du label Sarava aussi pendant quelques années.
Comment il s'appelle?
Pierre Barou. Et j'ai reçu un coup de fil de Gérard Pont de Morgane Productions. Il m'a dit, bah là, je voulais vous passer quelqu'un. Et il me passe un réalisateur, qui dit, bah là, j'ai vu votre livre. J'aimerais qu'on fasse un documentaire sur la meilleure partie, basé sur votre livre. J'ai dit d'accord. Et il m'a dit pourquoi. Parce que je fais référence dans mon livre sur Iggy Pop à un livre de Maurice Nadeau sur Mez Mezereau, qui est paru aux éditions Nadeau sur Mez Mezereau, qui s'appelle La rage de vivre. Et dans mon livre, j'ai une référence à sur Iggy Pop, j'ai une référence à ce livre de Mez Mezereau. Et le réalisateur en question était le fils de Maurice Nadeau, Gilles Nadeau. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait ce documentaire sur Iggy Pop pour Arte, qui est paru aussi assez longtemps maintenant. Tout ça, c'est l'histoire ancienne. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup d'autres choses entre-temps, jusqu'à maintenant, avec cette nouvelle boutique.
Ouais, tu continues à être très actif et c'est super, notamment à travers ton label May I Records, dont on va écouter un extrait. Mais avant d'écouter les Mantis, qui est un groupe agatois.
Oui, tout à fait.
C'est bien en plus parce que tu produis du local.
Ouais.
On va écouter un truc psychédélique. Je t'avais demandé de ramener des disques rares. En bon disquaire que tu es, forcément, t'as des pépites, quoi. En fait, t'as des trucs introuvables, quoi.
Ah, donc, bah, dans ma collection.
C'est quoi ce disque rare qu'on va écouter? Alors
c'est un groupe qui s'appelle The Blue Mountain Eagle, qui est un groupe psychédélique américain. Là c'est un disque assez qu'on trouve pas facilement. En plus là c'est un promo,
c'est un promo copie.
Moi j'ai un amour aussi assez immodéré pour la musique psychédélique, notamment la musique psychédélique américaine des années 80,
je mélange. L'époque de Haight-Ashbury.
C'est ça,
San Francisco.
La Californie, San Francisco. Ouais. Voilà, je me suis vraiment, j'étais branché San Francisco, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver.
Je suis allé là-bas.
Oui, je suis allé là-bas. J'ai dormi sur la plage de Big Sur.
Moi aussi, je suis allé en 2018, mais toi, tu es... En 76,
la première fois. Et voilà, et j'adore les groupes psychédéliques américains de cette période-là. Et Blue Mountain Eagle est un groupe un peu méconnu et qui me plaît énormément. Il y a trois guitares, une rythmique, deux guitares solo, qui les seuls morceaux qu'on va écouter vraiment emblématiques de ça.
Allez, c'est parti, on va passer 2 minutes de ce morceau et on finira avec les Mantis.
You walk the chains of the world we live in, yeah.
Ah, le rock psyché américain. Le rock psyché américain des années 60, ça, c'est ça?
Oui, c'est même. 60. C'est tout début 70, même. C'est 69, je crois, à peu près, en fait. Voilà.
Ok, l'époque de Grateful Dead et compagnie. Oui. On va finir par un morceau des Mantises, mais avant le dernier morceau, donc, sur le label de Gérald Guignot, May I Records, je vous signale la tenue d'une bourse au vinyle le 26 avril dans le cadre du Printival, Bobby Lapointe, à Pézenas. Nous serons 7 disquaires, je crois, sur la place Gambetta.
C'est ça.
C'est bien ça, Gérald?
C'est ça, oui, oui. Sur la
Alors, retrouvez-nous, venez nous rencontrer. Il y aura des bonnes galettes à chiner. Allez, on écoute tout de suite les Mantises. À bientôt, merci à tous. Retrouvez-nous en podcast sur rphfm.org. À bientôt. Merci, Gérald.
Merci, Geoffrey.
Ciao.
À bientôt.
Ciao.
On duty boots, try nailing my nose. Holy night and day, swing on the blue wave.